Ce matin, Radio Royan-Vercors est à La Chapelle, en compagnie de Nadine Schwertfeger et de Pierre Blondel, qui font tous les deux partie d'une association qui s'appelle le Centre de formation et de promotion des maisons familiales rurales en cœur de Parc du Vercors. Donc c'est une association qu'ils vont nous décrire et dont le siège social est basé à La Chapelle.
Oui, bonjour. Alors moi, je m'appelle Nadine Schwertfeger et je suis présidente de cette association qui est relativement nouvelle puisqu'elle a été créée en mars 2022.
Ah, bonjour, moi je m'appelle Pierre Blondel et je suis secrétaire de l'association depuis la dernière Assemblée Générale de cette année. Voilà.
Alors, cette association, elle a été créée à l'initiative d'habitants, d'élus et de professionnels du Royan-Vercors pour essayer d'agir face aux transitions que rencontre en particulier notre territoire, qui est un territoire rural et de moyenne montagne, qui est notamment impacté par le réchauffement climatique, par les évolutions sociétales, comme beaucoup d'autres territoires, mais le nôtre en particulier, il nous intéresse parce qu'on y habite, voilà, et que c'est un territoire qu'on aime et qu'on souhaiterait voir être en capacité d'affronter les défis du futur et en capacité d'offrir un avenir désirable aux jeunes qui vont prendre le relais quand nous, on sera trop fatigués pour agir. Voilà, donc cette association, elle a été créée, comme je le disais, en mars 2022, après qu'on se soit rapproché du mouvement des maisons familiales rurales, qui est un grand mouvement qu'on connaît bien, enfin, notamment dans les milieux ruraux. Hein, les MFR sont des formes d'institutions. C'est un mouvement qui existe depuis 1937, qui a été créé dans le sud-ouest par des agriculteurs qui souhaitaient que leurs enfants puissent apprendre le métier d'agriculteur localement sans avoir besoin de partir très loin. Et donc ça, c'était vraiment les toutes premières initiatives. Et peu à peu, ce mouvement s'est développé, a vraiment rayonné sur l'ensemble de la France et est maintenant donc même à l'international, puisqu'il existe environ 400 maisons familiales rurales en France et plus de pratiquement 500 à l'étranger. Voilà, ce mouvement, il porte des valeurs fortes en termes d'humanisme, d'éducation populaire, d'émancipation, c'est-à-dire qu'en plus de toute la transmission pédagogique qui peut se faire pour apprendre des métiers, basée sur le principe de la pédagogie de l'alternance, qui est très ancré dans ce mouvement, il y a tout un volet d'accompagnement, d'éducation des jeunes pour les émanciper, pour en faire des citoyens capables de se projeter dans la vie et d'être des acteurs dans la société. Voilà, donc ça, ce mouvement-là, en fait, nous semblait particulièrement adapté pour un territoire comme le nôtre et c'est cette raison pour laquelle on s'en est rapproché. Quand on a contacté la Fédération interdépartementale Drôme-Ardèche des maisons familiales rurales, on a rencontré sa directrice Bernadette Chaurier, assez rapidement aussi le président Bernard Gabel, qui ont été vraiment enthousiastes par ce projet et ont vraiment décidé de nous soutenir très activement. Donc, nous avons créé l'association sous statut de CFP des MFR, c'est-à-dire que ce n'est pas une véritable MFR. Nous n'avons pas les statuts pour accueillir des jeunes sous statut scolaire, donc en partenariat avec le ministère de l'Agriculture. Mais par contre, nous sommes habilités à organiser de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Voilà, donc ce projet, écoutez, il a vu le jour donc avec une équipe de bénévoles. Et comme il n'y avait pas d'urgence à se lancer dans des formations, à imaginer une offre de formation sortie de nulle part, on s'est dit qu'on allait prendre le temps de faire un diagnostic de territoire pour évaluer les besoins et les besoins en formation et la pertinence du projet d'un centre de formation donc en Royan-Vercors. sachant qu'il existe par ailleurs sur le territoire, le centre des Tracoles, hein, sur Saint-Laurent-en-Royans. Plus au nord, à Autran, il y a également la FRAT qui organise des formations. Et il y a également des maisons familiales rurales dans la vallée de l'Isère qu'on connaît bien. Donc voilà, il fallait voir si notre projet ne venait pas bousculer tout ce monde-là et prendre des places qu'il ne s'agissait absolument pas de prendre, notre projet n'étant pas de faire à la place d'eux, mais bien avec les autres, s'il y a une utilité à cela. Donc on a décidé d'abord de travailler à réunir des fonds pour pouvoir financer un chargé de mission pour mener à bien le diagnostic de territoire. On a finalement recruté deux chargés de mission à mi-temps, Sarah et Kylian, qui vont œuvrer pendant environ 9 mois pour produire un premier diagnostic de territoire, évaluant les besoins en formation notamment. Ils ont vraiment focalisé leur recherche dans un premier temps donc sur le domaine agricole. D'autres domaines ont été un peu investigués, mais demanderont des compléments d'enquête, c'est-à-dire la forêt, la filière bois et artisanale, et également le tourisme sur notre territoire. Donc, à l'issue de ce diagnostic, en fait, il est sorti on a pu mettre en évidence qu'il y avait des besoins pour les agriculteurs notamment de réagir finalement à ce qui les impacte énormément à l'heure actuelle, à savoir essentiellement le réchauffement climatique. L'enquête a été faite au printemps 2023, donc après ce fameux été 2022 qui a été extrêmement sec. Depuis, on a des étés, l'été 2023 a été un peu moins terrible, mais là on ne sait pas trop ce qui nous arrive avec toutes ces pluies et ces alternances de vent du sud, d'effets de feu, etc. Et puis également les évolutions sociétales avec des jeunes qui n'ont pas forcément envie de vivre la même vie que les agriculteurs de la génération précédente. Voilà. Et donc on a pu mettre en évidence un certain nombre de besoins et de demandes. Et en même temps, on a aussi pu constater un besoin de ces agriculteurs, finalement, de continuer ce qu'ils mettent déjà en place, c'est-à-dire des expérimentations pour essayer de répondre différemment, en développant des pratiques différentes, par exemple des cultures différentes pour enrichir les prairies, pour les rendre plus résistantes, plus résilientes. Et ça, en fait, ça nous a interpellés pour se dire que finalement, notre petit centre de formation local avait peut-être aussi pour vocation à devenir un pôle d'accompagnement des expérimentations adaptatives. Et finalement, pour mettre en lien, c'est les acteurs qui travaillent dans leur coin pour que chacun puisse avancer de façon plus efficace, finalement. Et puis également pour être des facilitateurs, pour mettre en lien ces professionnels avec des chercheurs, parce que le monde de la recherche fait également sa mutation. J'essaie de sortir des laboratoires pour aller faire des expériences, on va dire, plus en réalité, sur le terrain et à plus grande échelle. Voilà, donc le projet de notre association finalement s'articule autour de deux grands axes. D'une part, devenir un pôle de formation pour faciliter la montée en compétences des acteurs locaux ou émanant d'un autre lieu, d'un autre territoire, mais en étant vraiment axé sur les milieux de ruraux et de moyenne montagne, hein, qui caractérisent notre territoire Royan-Vercors, et également donc un deuxième pôle, un pôle d'accompagnement d'expérimentation adaptative locale, pour les raisons que je viens d'évoquer.
Et est-ce que vous avez des exemples de projets que vous êtes en train d'accompagner ou des exemples d'expérimentations que vous avez pu découvrir suite à cette étude de terrain, de territoire?
Oui, alors en fait, on a réussi finalement à synthétiser l'ensemble des données qui ont été récoltées sur le terrain pour se dire que d'un côté, on pouvait donc imaginer une offre de formation potentielle qui s'articulerait déjà autour de la caractéristique essentielle du tissu économique local, à savoir ici, on trouve essentiellement des petites entreprises de modèle familial, ce qui implique en fait de développer la polyvalence de tous les acteurs de l'entreprise. Donc en fait, ce qu'on se propose, hein, c'est de travailler autour d'une offre de formation qui pourrait s'intituler « De l'employé polyvalent à l'entrepreneur sur un territoire de moyenne montagne en transition ». Voilà, et donc ça pourrait s'appliquer aux différents domaines professionnels qui font vivre notre territoire. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, pour le moment, on s'est beaucoup focalisé sur l'agriculture et on est en lien avec un certain nombre d'agriculteurs du territoire. Et notamment, on est en lien avec Claude Vignon, agriculteur chevrier à Saint-Martin, au Briac, à Saint-Martin, au Vercors. Et donc, grâce à lui, on a pu entrer finalement dans à la fois une expérimentation et également développer une première formation l'année dernière qui a permis de nous tester, nous en tant que petite association émergente, pour voir voilà, nos capacités à être à terme à la fois centre de formation et pôle d'accompagnement aux expérimentations adaptatives locales. Donc c'était un magnifique projet et c'est toujours un magnifique projet qui est en cours que Pierre Blondel va nous expliquer.
Donc oui, donc on a eu cette opportunité de pouvoir organiser cette formation sur le projet qu'on appelle le projet Bocaworm. Donc le projet Bocaworm, c'est quoi? Rapidement, c'est une technique qui permet de lombricomposter des fumiers issus de l'agriculture, aussi bien des fumiers issus de caprins, d'élevage de bovins ou même porcins. Et cette technique repose un petit peu ce qui se passe dans la nature, c'est-à-dire que ces biodéchets puissent être consommés par les lombrics. Il faut au préalable faire un pré-traitement naturel qui se passe dans la nature, c'est-à-dire ce qu'on appelle une digestion probiotique. Cette digestion probiotique s'effectue par le biais de ce qu'on appelle la litière forestière qu'on fait préalablement fermenter. Et les jus de fermentation de cette litière forestière, donc en fait la litière forestière c'est tout bonnement les feuilles mortes, la première couche de feuilles mortes qu'on va chercher dans la forêt, avec laquelle on va faire croître des bactéries et des champignons pour ensuite récupérer ce jus que l'on va épandre sur les fumiers. Pendant un mois à peu près, va se passer le processus de digestion probiotique. Cette digestion va permettre de transformer tous les déchets en des déchets assimilables par les lombrics à l'issue. Donc en fait, ça se fait en trois phases. La première phase, c'est la digestion probiotique, comme je viens d'écrire, mais celle-là se fait à l'abri de l'air. La deuxième phase se fait, c'est ce qu'on appelle une phase de maturation, un peu comme dans les composts classiques, où là, on laisse agir l'oxygène de l'air pour pouvoir continuer la transformation des biodéchets. Et à la fin, c'est le lombricompostage, c'est-à-dire que là, les lombrics vont faire leur travail et transformer la matière, le biodéchet, pour pouvoir ensuite être répandu dans les champs. Alors, quel est l'intérêt de ce processus? C'est ce processus de lombricompostage par le procédé Bocaworm permet de mieux séquestrer le carbone. En fait, dans un compost classique, même pareil pour les fumiers aujourd'hui, si on le laisse réagir naturellement à l'air, à peu près 70% du carbone disparaît sous forme de CO2 ou de méthane. Donc ce qui n'est pas bon pour, effectivement, comme ce sont des gaz à effet de serre, ce n'est pas bon pour la planète, bien sûr, et pour le réchauffement climatique. Et aussi l'azote des fumiers qui, par l'excivation, par les pluies, s'en va, se retrouve dans les rivières et crée des phénomènes d'eutrophisation que l'on connaît bien, ces espèces d'algues que l'on trouve sur les étangs, ou voire même les marées vertes en Bretagne qu'on connaît bien avec les lisiers de porc. Voilà. Alors qu'avec ce processus-là, à la fois le carbone sera mieux séquestré et à la fois l'azote, par les champignons qui se trouvent dans la lifosphère que l'on amène pendant la digestion probiotique, transforme l'azote directement assimilable par les plantes. Donc, moins de risque de lexivation lors de l'épandage du lombricompost. Donc, en fait, les ratios, grosso modo, c'est 70% de carbone part à l'atmosphère dans le compost classique, alors que lorsque l'on passe à la technique du lombricompostage, c'est que 30%. L'avantage aussi de mieux séquestrer le carbone permet aussi d'apporter, lorsqu'on épense le lombricompost, un intrant qui permet de mieux garder l'humidité dans les terrains. Donc, ça va très bien avec effectivement le changement climatique, c'est-à-dire que des prairies ou des champs qui seront traités avec ça auront une matière qui permettra de garder l'humidité et donc d'éviter le stress hydrique pour les plantes.
Et de limiter les intrants de synthèse, etc. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans ce rôle de résister finalement, enfin d'être résilient par rapport aux changements, etc. Donc quelque part, c'est une valorisation locale de la matière organique produite sur le territoire dans un processus vertueux qui mime le process d'humification qui a lieu à toutes les secondes dans la nature.
Enfin, j'ai deux questions. La première, c'est d'où ça vient, ce procédé Bocaworm ? Quelle est l'histoire ? Et la deuxième, c'est qu'est-ce que ça implique pour les agriculteurs donc, qui souhaitent expérimenter, qui souhaitent vous rejoindre dans l'expérimentation ? Et si vous avez aussi des exemples d'agriculteurs qui le pratiquent dans le Royaume Vercors ?
Alors, le procédé Bocaworm vient effectivement a été apporté par la société Royal Canin avec le centre de recherche de Vergès qui était en expérimentation avant la création de l'association CFP-MFR en cœur de Parc de Vercors avec Claude Vignon, chevrier au Aubriac. Cette société avait lancé ce projet d'essayer de trouver un processus pour valoriser leurs déchets de fabrication qui sont des croquettes de chiens pour les animaux en fait. Et donc ils voulaient valoriser ces déchets-là parce que c'était des déchets à forte valeur ajoutée puisqu'il y avait des céréales, des protéines animales et donc ça c'était brûlé et c'était un petit peu une hérésie de ne pas pouvoir valoriser ces déchets. Et surtout de les valoriser avec un processus le plus vertueux possible. Or, il s'est trouvé que Alexandre Feugier, qui est un chercheur au centre de Vergès, connaissait ces procédés de digestion probiotique, qui est un vieux procédé qui était déjà utilisé par les Incas. En fait, on reproduit la nature tout bêtement. En fait, ce qui se passe dans la nature lorsque une feuille morte ou un cadavre d'animal tombe dans la forêt, eh bien, c'est le processus qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a une première digestion probiotique, ensuite il y a une maturation comme nous on fait, et ensuite c'est les lombriques qui font le reste du travail. Et en fait, c'est ne serait-ce que c'est une copie d'un processus naturel, mais qu'on accélère parce que lorsqu'on produit la lifofère, on la produit en grande quantité, on concentre les bactéries, les champignons, etc. Et donc, c'est cette société-là qui a créé un centre de recherche pour essayer de trouver les recettes optimales pour pouvoir faire à coup sûr le processus et qui puisse être transposable, extrapolable sur des unités agricoles pour pouvoir correctement valoriser les biodéchets. Voilà.
Et donc, simplement pour dire que le process est en expérimentation chez Claude Vignon maintenant depuis 2 ans. Du coup, l'année dernière, comme on voyait les premiers résultats prometteurs, on a décidé de lancer une première formation auprès d'un groupe de 10 agriculteurs du territoire qui ont été très motivés pour suivre cette formation qui s'est déroulée donc cet hiver sur 6 journées pour leur apporter à la fois la théorie et la pratique à petite échelle dans un premier temps du processus. Et on prévoit donc à l'automne prochain un deuxième volet de formation pour emmener ces agriculteurs vers le process d'expérimentation en plein champ pour caractériser les effets d'un épandage cumulatif du lombricompost donc sur leur parcelle. Et cette expérimentation en plein champ, elle va être conduite pendant 3 ans en partenariat donc avec donc entre le CFP, le centre de formation local, avec la société Royal Canin bien sûr, mais également l'INRAE, le centre d'Avignon, l'école nationale vétérinaire de Toulouse pour observer finalement l'évolution des pathogènes qui sont naturellement présents initialement dans les fumiers mais qui sont a priori détruits par le process, et puis également l'ISARA, donc l'école d'agronomie de Lyon. Voilà, donc tout ça, ça va se faire à l'échelle du territoire Royan-Vercors, avec ben, notamment, qu'est-ce qu'on peut citer comme agriculteur, ben, Jean-Luc Bertoin de la Chapelle en Vercors, la famille Maréchal également sur la Chapelle. Il y a également ben, Victor et Daniel Vignon à Saint-Martin, Elena et Jonathan, donc les voisins de Claude. Enfin, j'en oublie plein, ils vont m'excuser parce qu'on n'a pas le temps de faire la liste. Mais voilà, ils ont tous été vraiment au rendez-vous et manifestement très heureux de pouvoir apprendre beaucoup de choses grâce à l'intervention donc d'Alexandre Feugier qui est venu apprendre à ses agriculteurs le processus qu'il avait mis au point, accompagné donc de deux autres chercheurs de son laboratoire. Voilà, et donc ça a été une première expérience vraiment très intéressante pour mettre en valeur finalement ce process, mais également notre territoire, avec ces agriculteurs qui sont en marche pour améliorer leurs pratiques et s'adapter. Pour terminer sur Bocaworm, on va proposer l'hiver prochain une deuxième formation à destination d'agriculteurs qui souhaiteraient entrer dans ce process. Hein. Donc là-dessus, il y a des agriculteurs notamment du Vercors Nord qui souhaiteraient nous rejoindre. Il y en a quelques-uns peut-être aussi encore sur le Vercors Sud et dans le Royan. Voilà. Et ce projet également, il va se décliner aussi au niveau communal avec la commune de La Chapelle en Vercors qui est très partie prenante, ainsi que la communauté de communes au Royan-Vercors qui nous aide également financièrement sur ce projet parce que, comme l'a dit Pierre, en fait, il n'y a pas que les fumiers qui peuvent être transformés, mais il y a également tous les déchets alimentaires, donc ceux des collectivités, mais également ceux des particuliers. Et du coup, on est en train de travailler à la mise en place d'un premier démonstrateur Bocaworm communal avec la Chapelle en Vercors. Et on espère qu'il va pouvoir se mettre en place à l'automne. Et ça se fera forcément en collaboration étroite avec la communauté de communes. Mais dans un premier temps, là, ce qui nous anime là pour le moment, c'est de trouver un salarié ou une salariée qui va pouvoir prendre en charge vraiment le développement de cette offre de formation. Parce que c'est lourd, parce que c'est technique. Il faut une bonne connaissance du milieu de la formation professionnelle pour mener ce projet à bien. Et l'équipe de bénévoles a ses limites, hein, ses limites en termes de disponibilité et de compétences. Donc là, on est sur une phase de recrutement et on espère pouvoir donc avoir une personne en charge de notre projet, chargée de développer notre projet aux côtés des administrateurs dès le mois de septembre. Et ben dans l'idée, ce que je voudrais rajouter et qui est très important, c'est que en fait notre association est également a également pour mission d'être un laboratoire pour le mouvement des maisons familiales rurales en faisant de la formation autrement que classiquement, hein, c'est-à-dire un centre de formation avec un toit sur la tête et des fondations. Nous, on va rester sans toit sur la tête et sans fondation. Enfin, on fait le pari, en tout cas, que ça pourrait marcher et on est parti pour le tester. Et comment ça, c'est possible? Eh bien, ça va être possible en nous installant... on va dire en installant en tout cas notre salarié, parce que notre salarié, on va quand même pas la laisser ou le laisser complètement nomade, en l'installant donc dans le lieu dans lequel on est aujourd'hui, c'est-à-dire la Maison de l'Aventure à La Chapelle, dont le conseil d'administration et les salariés ont décidé d'accueillir ce prochain salarié avec eux dans leur mur. Donc on est très heureux de cette solution, la Maison de l'Aventure devenant finalement une forme de tiers-lieu, hein, avec son activité d'association du tourisme social et qui accueille déjà l'espace de vie sociale du Vercors Sud, Vertapop. Donc voilà, le CFP va s'implanter aussi dans ces murs, mais avec vocation finalement à rester mobile pour aller faire de la formation un peu partout et en s'appuyant beaucoup sur les partenaires de la formation. Par exemple, si une idée, c'est de développer un module de transformation des produits agricoles, par exemple transformation laitière hein, en fromage, donc c'est un module de formation qui ne pourra pas se développer sans avoir recours à un plateau technique de transformation alimentaire. On ne va pas construire un plateau technique qui coûte très très cher pour nos petits modules. Par contre, on pourra utiliser le plateau de transformation agroalimentaire de la MFR de Moirans, hein, si on a déjà pris contact avec eux et ils seraient ravis de pouvoir finalement rentabiliser leur structure en la mettant à notre disposition. Par exemple, voilà. Et puis, dans l'idée, c'est vraiment de co-construire ce projet avec, évidemment, l'ensemble du mouvement, des maisons familiales rurales, mais également les partenaires locaux. J'avais cité la FRAT et les Tracol. Donc, c'est maintenant que notre projet est bien dessiné et validé par ce diagnostic de territoire, c'est d'aller à leur rencontre pour voir dans quelle mesure on peut être des acteurs complémentaires pour essayer d'armer notre territoire face à ces changements et face à ces énormes défis qui sont déjà là et qu'il faut absolument relever.
Merci beaucoup. Et est-ce que vous avez un contact, si jamais il y a des agriculteurs, des agricultrices ou des jeunes du territoire qui aimeraient soit suivre une formation, soit rejoindre peut-être l'équipe bénévole aussi, si vous êtes en... Vous pouvez peut-être préciser si vous êtes en quête aussi d'agrandissement de l'équipe.
Pierre, vas-y.
Oui, parce qu'en fait, c'est le problème du bénévolat en France. En fait, on est toujours en manque de bénévoles pour permettre de faire tourner l'équipe à son maximum d'efficacité. Donc, si effectivement, il y a des bénévoles qui souhaitent rejoindre le mouvement, ils sont les bienvenus pour aider Nadine, moi-même et puis les autres membres du conseil d'administration, ce qui permettra d'être beaucoup plus fluide dans nos actions et notamment sur le projet communal qui demande un petit peu d'énergie parce qu'il faut relancer sans arrêt pour pouvoir aboutir. Et là, ils seront les bienvenus pour nous aider. Voilà.
Et donc, un contact ?
Oui, donc le contact, ça peut... Alors, pour l'instant, on n'a pas de site internet, mais ni de page Facebook, ni voilà. Mais on va y travailler. Notre communication, elle doit évidemment se développer. Donc, pour l'instant, on a une adresse mail. C'est CFP, comme centre de formation et de promotion, .vercor@mfr.asso.fr et un numéro de téléphone, le 06 01 98 02 75. Voilà, donc effectivement, si vous voulez nous rejoindre pour ce projet qui est quelque part passionnant et ambitieux aussi pour notre territoire qui est soutenu par notre intercommunalité, par la commune de La Chapelle-en-Vercors, par des associations locales et également par le parc naturel régional du Vercors qui est dans notre conseil d'administration et qui suit avec un grand intérêt toutes nos actions hein, avec la présence de Jacques Adnaud et de Marie-Odile Baudrier. Donc voilà, n'hésitez pas, on a besoin de bras, on a besoin de force vive pour poursuivre cette belle aventure.
Et ben merci beaucoup Nadine et Pierre pour donc cette historique et les projets actuels donc du CFP MFR et peut-être qu'on se dit à l'automne prochain pour suivre l'évolution donc du projet Boko Haram qui serait porté par la communauté de communes.
Très volontiers. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci.